Et c'est d'entre vous qui, pendant tout le trimestre, ont préparé avec M. Cohen les midrashim concernant le commencement de l'histoire de Moïse, ont dû donc remarquer à quel point le commentaire, dans sa source même, au niveau du midrash, entre dans les implications parfois de très grands détails par rapport au récit proprement historique que nous donne le texte de la Bible. Mais vu la configuration du cours, je ne pourrais donc pas employer cette méthode et je me propose de décrire un certain nombre de thèmes, un certain nombre d'analyses qui portent sur le thème de l'identité de Moïse. Et en tant que l'identité de Moïse peut nous apparaître aujourd'hui comme exemplaire de notre propre situation. Et c'est la raison pour laquelle j'avais intitulé cette question Moïse, libérateur d'Israël, entre l'Égypte et le peuple hébreu, le problème de la double appartenance. Je crois que ce qu'il faut découvrir dès le premier abord, c'est qu'il y a, en une seule personne, mais c'est qu'il y a deux Moïse, radicalement différents, au point qu'on peut les définir l'un comme étant le fils de Pharaon, c'est-à-dire l'héritier du trône de l'Égypte, c'est-à-dire l'Égyptien par excellence, et l'autre comme étant le chef d'Israël, le fils de la tribu de Lévi. Et je dis bien, il s'agit très exactement de la même personne. C'est, si vous voulez, une façon de parler que de dire qu'il y a deux Moïse, c'est la même personne. Mais cette personne de Moïse a une double face, a une double identité. Et je crois qu'on ne peut pas trouver de situation plus exemplaire de notre propre problème que de réfléchir à cette question de l'identité de Moïse. En tant que, d'une certaine manière, il est l'Égypte même, et que d'une autre manière, il est Israël même. Donc, si vous voulez, le principe de notre réflexion. Mais je voudrais d'abord commencer par une question de méthode. Au fond, il suffirait d'ailleurs d'énoncer ce principe de la méthode pour que nous puissions bien pénétrer dans le sujet. Il y a une très grande différence de mentalité entre le commentaire de la Bible et d'autre part, les textes mythiques. Je crois qu'il est nécessaire de parler de cela. Parce que nous vivons, depuis à peu près la guerre, depuis après la libération, nous vivons malgré tout en France, un peu aussi ailleurs, mais surtout en France, une génération qui tente une reformulation de la lecture de la Bible. Vous avez dû remarquer à quel point le nombre des livres, ou même parfois des articles de revues, qui tentent cette reformulation de la lecture biblique, combien le nombre de ces textes est grand. Et je pense qu'il y a un certain danger à feindre de croire qu'on peut lire la Bible pour y trouver des thèmes de grande profondeur, d'ailleurs, mais qu'on peut lire la Bible à la manière dont on lit un mythe. Dans les milieux juifs, la majeure partie des auteurs qui tentent cette formulation sont, comme vous le savez, des auteurs qui font partie du judaïsme traditionnaliste, et c'est la raison pour laquelle ce parti pris qui consistera à dire, au fond, la Bible nous parle de choses sérieuses, nous parle de choses importantes, mais en fin de compte, un peu à la manière dont le mythe aussi parle de choses sérieuses ou de choses importantes, donc cette espèce de postulat n'est jamais formulé parce que les auteurs font partie du judaïsme traditionnaliste, mais malgré tout, je crois qu'il y a ce danger. Ils ne le disent pas, mais peut-être ils le pensent. En tout cas, ce qui est nécessaire, c'est que les lecteurs ne le pensent pas. Alors pourquoi je voudrais que nous commencions d'abord par réfléchir sur la méthode. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu dire là? Voilà le danger de cette tentative de reformulation, c'est que montrer dans le texte biblique des tentes de profondeur, cela risque de la faire passer pour un mythe. Ça a l'air d'être paradoxal. Montrer que la Bible a un sens, ça risque de la faire passer pour un mythe. Alors c'est la raison pour laquelle je voudrais opposer, au niveau de la question de méthode, je voudrais opposer ces deux méthodes, justement, la méthode du Midrash et la méthode du mythe, par rapport au problème qui va nous occuper, c'est-à-dire l'identité de Moïse. Et il me semble que la méthode du Midrash et la méthode du mythe sont très exactement opposées l'une à l'autre. Le Midrash, en nous parlant d'un personnage exemplaire qui est le héros d'un récit tente à nous faire comprendre comment son identité est incarnée dans la société tout entière dont il est le héros exemplaire. Ce que le Midrash nous dira de Moïse, il veut nous le faire entendre de l'identité d'Israël en général. Si vous voulez, le mouvement dialectique du Midrash consiste à partir du personnage exemplaire pour faire comprendre l'importance de son identité à l'échelle d'une société. Ce que le Midrash nous dit de Moïse, il veut nous le faire comprendre de tout Israël. Tandis que le mythe a exactement le mouvement dialectique inverse. Le mythe consiste à incarner dans un individu ce qui est le propre d'une identité collective. Et je crois que au bénéfice de cette remarque, ça peut bien mettre en évidence en quoi, à la limite, justement, cette personnalité de Moïse est exemplaire d'une situation propre à une société tout entière. Pardon ? Les attendus de la naissance de Moïse, les attendus de sa vie, les événements que la Torah nous raconte à son propos sont bien entendu des événements qui concernent une personne individuelle, cet homme et pas un autre. Mais cet homme porte, incarne, si vous voulez, l'identité d'Israël, et par conséquent, ce que le texte et donc ce que le Midrash nous dit de lui, nous devons le comprendre au niveau de l'identité de tout Israël. Tandis que, encore une fois, la méthode du mythe est exactement l'inverse. Il s'agit de cumuler sur un personnage et qui en tant que tel devient mythique dans le sens strict, de cumuler sur un personnage ce qui est valable en réalité pour l'identité de tout un être collectif. Si vous voulez, nous pouvons ouvrir une petite parenthèse et pour indiquer la différence qu'il y a entre Moïse pour le judaïsme et, si vous voulez, le personnage principal des évangiles pour le chrétien. Dans le cas du judaïsme, l'identité de Moïse est hors du mythe par définition, parce que Moïse c'est Israël. Moïse c'est la personne exemplaire d'Israël. Tandis que au niveau de la pensée chrétienne, nous retombons de nouveau dans le mythe, parce que tout ce qui est censé être dit d'Israël est en réalité attribué à une personne individuelle qui, en tant que telle, devient mythique, puisqu'elle est le porteur du mythe d'Israël. Est-ce que vous voyez en quoi ces deux méthodes sont radicalement inverses? Est-ce que c'est bien clair? Cela signifie donc, ceux d'entre vous qui ont suivi ces cours les années précédentes s'en souviennent peut-être, ça signifie qu'il y a peut-être une relecture juive des thèmes évangéliques pour les démythifier dans le sens strict, mais d'une toute autre manière que les chrétiens entendent cette démythification. Il faut lire en clair de qui il s'agit dans le mythe chrétien, et je referme rapidement la parenthèse, de qui il s'agit, de l'identité Israël, mais cumulée sur un personnage fictif, qui en devient une idole, qui en devient littéralement un mythe. Dans ce mythe, il n'y a pas rien, dans ce mythe chrétien, il n'y a pas rien, il y a l'identité d'Israël érigée en médiateur et adorée comme tel. Donc il y a beaucoup de choses dans ce mythe. Mais il ne reste pas moins que la méthode, la démarche de la conscience vis-à-vis de la personne exemplaire est radicalement inverse de l'attitude du Midrash juif. Encore une fois, le Midrash juif nous fait comprendre qui est Israël dans ce qu'il nous dit de Moïse, alors que le mythe retire à l'être concret l'homme de l'histoire, l'homme historique, la société dont le mythe parle, retire à l'homme historique sa réalité pour la projeter dans une figure, avec un grand F, en fait, une figure, c'est-à-dire un mythe. Nous avons un texte qui est très souvent utilisé à propos précisément de cette comparaison que je suis en train d'établir entre l'identité d'Israël et l'identité de Moïse. Et nous devons comprendre cette comparaison dans la logique d'un rapport de paroxysme. C'est-à-dire que Israël est l'essence, l'essence d'Israël, c'est l'identité de Moïse à cette époque. Et c'est en cela que Moïse est exemplaire. À chacune des générations des engendrements d'Israël, à chacune des générations qui ont mis au monde l'identité Israël, il y a un personnage principal qui en est la personne exemplaire, Abraham en son temps, Isaac en son temps, Jacob en son temps, et puis voilà qu'à la sixième génération, à partir d'Abraham, ce personnage exemplaire qui représente l'identité Israël, c'est Moïse. Et il va se dévoiler à nous ce qu'est l'identité d'Israël à travers la description que la Torah nous donne de la personne Moïse, ce qu'est l'identité d'Israël dans un moment qui est la fin d'un exil et le commencement d'une délivrance. C'est en cela, si vous voulez, que Moïse est bien exemplaire de l'identité d'Israël. Le texte auquel je pense, vous le connaissez certainement pour la plus grande partie d'entre vous, on raconte dans la Gemara qu'un jour Rabbi Akiva enseignait à la yeshiva, il enseignait à l'école, et que ses élèves somnolaient. Alors pour les réveiller, et il leur a donné un enseignement en choc, mais pour les réveiller, il leur a dit, il y a une femme, nous savons par tradition qu'il y a une femme qui a mis au monde 600 000 enfants. Alors l'auditoire s'est réveillé. Je dirais que la vraie question de ce midrash, c'est pas comment comprendre qu'une femme puisse mettre au monde 600 000 enfants, c'est comment comprendre que lorsque Rabbi Akiva enseigne, les gens dorment. Alors si vous voulez, vous comprenez, il y a un étonnement très grand, oui, l'humour de la Gemara. Et en commençant, on dit tranquillement, Rabbi Akiva est en train d'enseigner, et qu'est-ce que c'est les élèves qui sont nommés? Et tout le monde passe sans voir le piège. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris la difficulté? Eh bien, je vais d'abord vous donner une explication là-dessus, sur cette vraie difficulté, et ensuite nous retrouverons notre texte, que je termine la citation. Alors les élèves réveillés ont dit à Rabbi Akiva, avec qui a-t-il enfanté 600 000 hommes, 600 000 enfants? Et il a répondu, la mère de Moïse, parce que Moïse équivaut à tout Israël. Et à l'époque, il y avait 600 000 personnes en Israël, 600 000, donc manière d'être Israël, que Moïse les équivalait toutes. Voilà ce que Rabbi Akiva a voulu faire comprendre. C'est habituellement ce texte que nous citons toujours pour situer cette exemplarité de Moïse concernant notre problème. Je vais vous citer, donc pour la difficulté de la Gemara elle-même, l'explication que j'ai entendue, que j'ai reçue, c'est que lorsque l'homme étudie, eh bien, il a deux possibilités. Je voudrais trop schématiser l'explication, enfin, pour pas que la parenthèse soit trop longue, alors ça risque d'être hermétique. Je veux dire que, enfin voilà ce que nous savons par tradition, comme ça je mets ça entre guillemets, que l'homme peut étudier soit à l'école d'en bas, soit à l'école d'en haut. Par exemple, la nuit, l'âme monte à l'école d'en haut pour étudier. C'est la raison pour laquelle il peut vous arriver le matin de vous réveiller avec un thème de connaissance supplémentaire à ce qu'était la sagesse précédente. Ça a été appris à l'école d'en haut, nous disent les Kabbalistes. Et par conséquent, pour étudier à l'école d'en haut, il faut s'endormir pour que la Neshama puisse monter à l'école d'en haut. Alors ça, c'était ce que Rabbi Akiva était capable de faire. Vous avez compris, c'est joli. C'est-à-dire, il envoyait directement ses élèves à l'école d'en haut. Et puis, à l'origine, il a fait redescendre, comme Moïse a fait redescendre la Torah sur terre. Bien, alors, je vais faire la parenthèse. Et nous voyons bien dans ce texte cette exemplarité qui nous est enseignée de la personnalité de Moïse. Et voyez-vous comment nous retrouvons notre sujet, ce qui a été l'existence de Moïse, cette existence ambiguë, à la fois égyptien et hébreu, et avec l'option qu'il avait à faire. Et c'est, comme nous le verrons tout à l'heure, son option qui a changé la face de l'histoire humaine. Moïse aurait pu choisir pour l'Égypte contre Israël. Et regardez à quel point le problème nous oblige à employer des mots et des noms qui, de façon vraiment stupéfiante, rejoignent l'histoire tout court. Mais je veux dire, Moïse aurait pu choisir, opter pour l'Égypte contre Israël. Il a opté pour Israël contre l'Égypte. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi et en quoi et comment ce choix s'est réalisé. changé. L'histoire de l'humanité, à partir de cet événement, n'est plus la même qu'elle était avant. Et elle aurait été tout autre si Moïse, et vous voyez en quoi ça, son identité est exemplaire, si Moïse avait choisi pour son identité d'Égyptien contre son identité d'Hébreu, puisqu'il en avait, puisqu'il avait les deux. Bien, ce sont des perspectives de ce type que je voudrais donc décrire, de telle sorte que ça puisse vous permettre d'y ordonner toutes les connaissances exégèses ou de commentaires que vous aurez à apprendre par la suite ou que vous avez appris d'autre part. Ce qui me frappe beaucoup dans cette exemplarité de la personnalité de Moïse, c'est ceci, c'est que comme lui, le peuple juif, la société des Hébreux de ce temps, était à la fois d'identité égyptienne et d'identité hébraïque. Ben, c'est exactement notre cas. Ben, si j'osais, je dirais votre cas. Mais en tout cas, c'est exactement notre cas. Et tout se passe comme si ce clivage d'identité passe à l'intérieur de chacune de nos personnes. Et d'ailleurs, la ligne de démarquage n'est pas du tout droite. Elle est très complexe. Vraiment, ben, il y a une partie de notre personne qui est de l'Égypte, pour chacun son Égypte, enfin qui est de l'Égypte, et une partie de notre personne qui est d'Israël. Et c'est exactement le cas de Moïse à la limite et au paroxysme, et ça signifie selon le Midrash que c'était le cas de tout Israël en Égypte. Et vous vous souvenez d'ailleurs dans le récit biblique qu'il s'agissait là de l'option politique, de l'option d'identité de Joseph. Je crois que nous avons cette exemplarité, de façon beaucoup plus intense encore au niveau de Moïse qu'au niveau de Joseph. Joseph tente cette aventure qui consiste à faire réussir l'histoire humaine à travers les catégories de la civilisation égyptienne en la fécondant par l'essence d'Israël. C'était, si vous voulez, le rêve de la messianité de type Joseph, de faire réussir l'histoire humaine à travers la civilisation du temps. Et Moïse, lui, représente finalement une sorte de jugement, le fait de prendre acte qu'une telle tentative est impossible. Voici quel est l'homme qui va permettre la révélation de l'homme moral dans l'histoire humaine. Et c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que je ne parle pas ici de Moïse comme législateur, j'en parle surtout comme un libérateur, mais n'oublions pas que Moïse est effectivement l'homme qui va apporter la morale, la loi morale dans le monde. À partir de Moïse, on ne pourra plus poser le problème de la destinée humaine comme on l'avait posé avant Moïse. Eh bien, cet homme est à la fois l'héritier de la civilisation égyptienne et en même temps l'héritier du destin d'Israël. Et l'option, le choix qu'il a fait, consiste à sacrifier l'avenir de l'Égypte pour l'avenir d'Israël. Et c'est aller jusque-là, c'est-à-dire prendre acte que la tentative de Joseph ne pouvait pas aboutir. Si vous voulez, ce que voulait être Joseph, c'est Moïse qu'il a été. Et ce Moïse qui est devenu un Joseph réussi, si vous voulez, eh bien, ce Moïse a comme bilan de jugement, malgré, comme le montre le Midrash, une équivalence culturelle absolue entre les Égyptiens de ce temps et les Hébreux de ce temps, eh bien, a choisi pour une identité, je n'ose pas dire contre l'autre, mais le fait de choisir faisait que c'était ou l'une ou l'autre. Voilà ce que nous apprenons de son problème, du problème de Joseph, que lorsque le moment du choix est venu, eh bien, cette ambivalence d'identité ne peut pas être portée. Et il faut la résoudre. Vous retrouvez effectivement cela dans, et d'une façon générale, et dans le détail du texte, mais je crois que ce qui est important à mettre en évidence, c'est cela, c'est l'intention que le récit biblique a de nous montrer que cette option était au point le plus central du problème, ou si vous voulez, au plus haut niveau. Ce n'est pas n'importe quelle manière d'être égyptien que Moïse. Et ce n'est pas n'importe quelle manière d'être hébreu que Moïse. C'est la manière la plus totale, la plus forte dans les deux cas. Il peut être soit, encore une fois, avant que Moïse ne prenne conscience de la décision qu'il va prendre, il était lui-même chargé par le Pharaon d'être le chef des camps de travail où les Hébreux étaient esclaves. Alors imaginez, si vous voulez dire la comparaison avec ce qui s'est passé en Allemagne, imaginez que cette espèce d'option, être ou le chef des nazis ou le chef des juifs en Allemagne, et avec la possibilité politique, culturelle et culturelle de l'être vraiment pour le même homme. Voilà ce qu'a été l'histoire de Joseph, de Moïse et de son option. De chef des camps de concentration, il est devenu le libérateur d'Israël. Et pourquoi a-t-il été le chef des camps de concentration de l'époque? Eh bien, tout simplement, explique le Midrash, parce que si c'est l'Égypte qui a raison, alors c'est un bien de faire travailler les Hébreux dans la cohérence égyptienne. C'est un bien de faire travailler les Hébreux à la réussite de la civilisation égyptienne. Si vous voulez, il nous faut arriver à trouver le critère qui a été celui du choix de Moïse. Mais avant même de comprendre ce critère, il faut mettre en évidence ce qu'a été l'enjeu et quel était le débat dans la personnalité de Moïse. Si vous voulez, je ne voudrais pas risquer des implications trop précises avec les événements contemporains. Enfin, imaginons qu'on se sert de l'argument de la raison d'État. Eh bien, si la raison d'État doit être utilisée pour l'avenir de la civilisation égyptienne, alors il est normal que l'on trahisse les Juifs et qu'on les mette en situation d'avoir à travailler inconditionnellement pour les Égyptiens. Vous voyez le rapport? Enfin, si la raison d'État doit jouer dans le sens de l'Égypte, alors il est normal que Israël soit sacrifié. Et pendant toute une période de sa vie, Moïse a été cet homme qui avait systématisé l'asservissement de l'identité d'Israël aux objectifs de la civilisation égyptienne. Et un jour, il comprend qu'il y a un choix à faire. Et c'est très important. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que le Midrash nous parlait d'une équivalence culturelle. Je veux dire, au niveau, faudrait dire plus exactement, d'une équivalence au niveau de la culture et de la civilisation entre l'identité égyptienne et l'identité hébraïque de ce temps. Ensuite, bien entendu, l'identité israélienne a pris son essor, alors que l'identité égyptienne est entrée dans le musée de l'histoire, si j'ose dire. Mais, à l'époque, il y avait véritablement une équivalence de niveau et de densité. Lorsque, plus tard, après la sortie d'Égypte, il y aura l'épisode du passage de la mer Rouge, et que les Égyptiens, l'armée égyptienne va être, l'armée égyptienne de l'époque, mais elle va être, détruite, le Midrash fait parler les anges. Et vous savez que chaque peuple, chaque nation, chaque société a un principe céleste qui est son représentant au tribunal céleste, si j'ose dire, en langage du Midrash. Et le Midrash fait parler l'ange tutélaire de l'Égypte, et l'ange tutélaire de l'Égypte se plaint devant le tribunal de Dieu en disant: mais pourquoi tu sauves les uns et tu perds les autres? Quelle différence y a-t-il? Ils sont analogues, ceux-ci sont ainsi, ceux-ci sont ainsi. Ceux-ci sont capables de cela, ceux-ci sont capables de cela, etc. Oui, et il y a là un drame très profond, parce qu'en fin de compte, l'Égypte, c'est l'avenir d'Abraham à travers Ishmaël, alors que Israël, c'est l'avenir d'Abraham à travers Isaac. Vous comprenez? C'est finalement un drame intérieur à l'identité d'Abraham. Eh bien, et Dieu répond que la différence, c'est que Israël porte l'avenir en lui, mais sur quelle forme Moïse l'a compris? Si nous reprenons le débat au niveau de l'identité de Moïse, et vous savez que d'ailleurs, dans la commémoration de la sortie d'Égypte, nous prenons le deuil de ce sacrifice de l'Égypte pour l'avenir d'Israël. Nous en prenons le deuil, vous savez cela. Dans les premiers-nés jeunes, la veille de la fête de Pâques, et nous ne disons pas le Havel complet pendant Pessah, à cause de précisément. De ce sacrifice de l'Égypte qui, en langage symbolique, se retrouve déjà dans le sacrifice d'Isaac, où le bélier est sacrifié à la place d'Isaac, et nous savons effectivement que le bélier était le symbole astronomique de l'Égypte. Vous savez cela, le bélier était reconnu par les Égyptiens comme étant, il s'agit du Abraham a été, sur un plan symbolique, a été de sacrifier l'avenir de l'Égypte pour l'avenir d'Israël à travers Isaac. Nous sommes de nouveau frappés de voir que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la distribution politique et historique des ennemis d'Israël, c'est encore une fois et de nouveau à travers la catégorie Égypte que le dilemme est posé. Et lorsque je pense à nous, ici, avec notre problème de double appartenance et de double identité, eh bien, c'est très clairement dans ma pensée qu'il s'agit de l'Égypte. Que se rangeant face à Israël, en fin de compte, la France se range derrière l'Égypte. Et c'est de nouveau, c'est clair, bon, et c'est de nouveau la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a une option, pour l'Égypte contre Israël, quelle que soit d'ailleurs la manière dont le débat intérieur de la conscience de chacun ressent ce drame. Et cela nous fait entrer dans les débats intérieurs de la première partie de la vie de Moïse. Est-ce que vous comprenez que, comment justement cette exemplarité des problèmes de Moïse peut nous aider à éclairer notre propre problème? Eh bien, au niveau, c'est-à-dire tout se passe comme si nous serions, je ne parle pas des Français non-juifs, mais je parle des Français juifs, et voilà, nous serions encore dans la position de Moïse qui n'a pas encore décidé s'il sera le Moïse hébreu ou s'il sera le Moïse égyptien. Vous voyez quel est le drame spirituel qui est le vôtre, hein, puisque grâce à Dieu, ce n'est plus le mien. Voilà donc que je me disais l'année dernière que ça allait finir par arriver, que pris de panique, je m'en irais. Mais c'est à cause de ça, parce que je voulais échapper à ces terribles cas de conscience des Juifs français. Et en particulier des Juifs français. Bien, alors revenons donc à notre problème. Le critère qui a fait que l'option de Moïse va dans le sens Israël et non pas dans le sens Égypte, c'est le choix moral. Il y avait équivalence culturelle, il y avait analogie, si vous voulez, des destins culturels, mais ce que Moïse a compris, ce que Moïse a vu, c'est que il n'y avait pas de valeur morale chez l'homme égyptien, alors qu'il y avait une valeur morale chez l'homme hébreu. La différence était cela. Il a choisi pour les uns contre les autres parce que il a fait jouer le critère de la valeur morale. Je crois que c'est extrêmement homogène à ce que sera la vocation de Moïse. Moïse a été le prophète du monothéisme dans le sens de l'identification entre l'expérience spirituelle et l'expérience morale. À partir de Moïse, la religion, c'est la religion de la morale. Et il n'y a pas d'autre monothéisme cohérent que cela. Que la vertu religieuse, c'est la vertu morale. C'est ça ce que Moïse porte. Et dès le début de son option et dès le début de son histoire, il a vu que, quelle que soit l'analogie culturelle que l'Égypte pouvait représenter face à Israël, eh bien, seule cette manière d'être homme qui était représentée par Israël pouvait être le véhicule de la valeur morale, des valeurs morales, de la loi, de la Torah, que le Créateur va en fin de compte pouvoir révéler à travers et grâce à Moïse. Voilà l'essentiel de la première analyse que je voulais vous présenter ce soir. C'est donc le fait que, premièrement, Moïse représente la personne exemplaire de l'identité Israël, mais de l'identité Israël de la galoute, de l'identité Israël de l'exil. C'est-à-dire, totalement par un côté, si j'ose dire, égyptien, totalement par l'autre, hébreu, et capable, par son choix, finalement, d'infléchir le sens de l'histoire. Et ayant fait ce choix, ayant fait cette option, donnant l'avenir de l'Égypte, le donnant à Israël, ayant fait ce choix lucidement. Maintenant j'aborde une deuxième analyse, c'est la raison pour laquelle le récit biblique, en nous racontant la naissance de Moïse, ne nous donne pas de patronyme, enfin ne nous donne pas de nom personnel de la famille d'où est issu Moïse. C'est par le raisonnement que nous reconstituons le fait qu'il est le fils d'Amram, qui est lui-même le fils de Lévi, qui est c'est le texte, et il s'agit là du premier verset du deuxième chapitre de l'Exode. Le texte dit « Vayeler ish mi bet levi, vayikar et bat levi ». Voici comment le texte se formule, et un homme de la tribu de Lévi alla et prit la fille de Lévi. C'est la première fois que cette expression, qui est une expression de la littérature française, d'ailleurs, la fille de Lévi, ou la fille de Lévi, je crois qu'il y a un roman comme ça, me semble, je pense à mon jeune âge et ma mère. Et cette expression vient de ce verset. Donc, Vayeler ish mi bet Lévi, un homme de la maison de Lévi, parti, alla prendre la fille de Lévi, la prendre comme femme, et de ce mariage va naître Moïse. Et nous savons qu'il s'agit d'un remariage. Je vous explique cette situation parce qu'elle est extrêmement importante. C'est-à-dire, la difficulté d'être des épreuves en ce temps-là en Égypte avait été telle que le suicide collectif avait été décidé par Israël. Le suicide collectif en refusant de continuer à avoir des enfants. Terme précis qui désigne ce genre de suicide, j'ai oublié. Ça s'appelle, je crois, un suicide cosmique ou quelque chose de ce genre. Enfin, vous comprenez de quoi il s'agit. C'est-à-dire, la société hébraïque a pris la décision, en quelque sorte, pour forcer le destin, de ne plus avoir d'enfants. Et par conséquent, tous les maris se sont séparés de leurs femmes. Et en particulier, cet homme de la tribu de Lévi, le texte hébreu signifie très exactement l'homme de Lévi par excellence, l'homme de la tribu de Lévi par excellence, Ish mi bet Lévi. C'est-à-dire l'identité de Lévi, elle est incarnée sur le chef de la tribu. C'est donc le personnage essentiel d'Israël. C'est dans la famille centrale d'Israël que va apparaître cette personne qui sera Moïse. Il n'a pas comme véhicule terrestre, si vous voulez, n'importe quel corps. Il est le corps qui lui est donné, c'est intentionnellement que je parle ainsi, le corps qui lui est donné, et celui d'une famille juive par excellence, la maison de Lévi par excellence. Est-ce que c'est bien clair? Et effectivement, cet homme, qui est donc Amram, mais voyez, le texte ne le nomme pas de son nom, Amram, le texte le nomme de son identité. L'homme par excellence de la tribu de Lévi, et va prendre en mariage la fille par excellence de la tribu de Lévi, la fille de Lévi lui-même d'ailleurs, puisqu'il est marié avec sa tante, Amram. De ce mariage, mais je disais c'est un remariage, va naître l'homme juif par excellence qui est le corps de Moïse. Et puis dans ce corps, l'âme qui est donnée, c'est l'âme du plus grand des prophètes. Voilà, si vous voulez, ce qui apparaît là. Mais à la suite de quelle décision? Donc je rappelle le contexte historique, c'est que la difficulté d'être était telle qu'on avait décidé de ne plus avoir d'enfants. Le Midrash nous raconte un épisode important. Et j'ouvrirai d'ailleurs une parenthèse concernant les implications contemporaines à ce sujet. Un épisode vraiment très important. Mais finalement, c'est grâce au courage des femmes que Israël a été sauvé. Et en particulier, grâce au courage de la sœur de Moïse, c'est-à-dire Myriam, Marie en français, mais Myriam, donc, était déjà née au moment où les hommes d'Israël avaient décidé de se séparer de leurs femmes. J'ouvre une première parenthèse. C'est que nous savons par tradition que la tribu de Lévi n'a jamais été asservie en esclavage en Égypte. Ça, il faut bien le savoir. Et voilà la chose extrêmement importante. Hein. La tribu de Lévi était la tribu, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui les professions libérales. La tribu de Lévi, c'était effectivement les cadres intellectuels du peuple juif. Cette tribu n'a jamais été en esclavage. Le système théocratique de l'Égypte avait donné le privilège à la tribu de Lévi de ne pas être soumise à l'esclavage égyptien. Et pourtant, cette tribu de Lévi a voulu vivre le destin de son peuple, a voulu vivre le destin d'Israël. Et c'est dans la tribu de Lévi, en particulier, qu'il y a eu cette décision, que cette décision a été prise. C'est Amram qui l'a prise en tant que chef du peuple, la prise de ne plus avoir d'enfants. Pour ceux qui connaissent le Shulchan Aruch, ben pour ceux qui connaissent la Torah, ça veut dire mettre un terme à l'identité d'Israël. La décision du peuple a été vraiment de forcer le destin. Et puis, voilà que. Nous sommes là vraiment à une époque extrêmement grave. Je voudrais encore ouvrir une petite parenthèse, et c'est ceci, c'est que nous avons vécu dans la génération en Europe, ce qui s'est passé en Allemagne, enfin en Europe en général, par rapport à l'histoire juive, est quelque chose d'énorme. Mais on oublie toujours que ça s'était déjà passé plusieurs fois, et en particulier en Égypte. Puisqu'on arrive, vous voyez que je me souviens encore quand j'étais enfant, avant la guerre, avant tout cela, avant 1932-1933, au Talmud Torah, on ne pouvait pas s'empêcher de se dire quand même, dans tous ces midrashim qui décrivaient la difficulté d'être, comme je dis gentiment, des Hébreux en Égypte, disait quoi, imagination orientale. Hein. On nous décrivait des choses qui, si on les avait prises au sérieux, auraient fait dresser nos cheveux d'enfant sur nos têtes d'adultes. Mais on se disait, enfin quand même, c'est le midrash. Je vous donne un petit exemple, que les Égyptiens poussaient la science nazie jusqu'à se servir de petits-enfants vivants une brique sur deux dans les murs. Une brique sur deux dans les murs, c'était un bébé vivant qu'on mettait dans la chaux, enfin dans le ciment. Et nous avons lu ces midrashim avant la guerre. Eh bien, après, quand on a lu ce que les Allemands avaient fait, on a compris que c'est Otodava, la même chose. Ça s'était déjà passé. Vous savez ce que les Allemands ont fait, des abat-jour en peau de juif, etc. Enfin, vous savez. Finalement, il y a eu cette décision. C'est-à-dire, on comprend que la gravité des événements était telle que la décision qui a été prise, c'était, bon, puisque la vie est invivable pour Israël, alors on arrête, on annule Israël. On a ce courage, non pas s'assimiler, parce que Égyptien, on ne devient pas comme on ne devient pas allemand, quoi, après ce qui s'est passé, hein, vous comprenez. Mais non pas s'assimiler, non pas, puisque nous parlons de nous, devenir français, mais s'arrêter d'être, arrêter l'existence, dissoudre la communauté juive. Je joue des tentateurs, mais en fait c'est ce qu'il faudrait faire. Bon, je reviens au problème. Décision, ne plus avoir d'enfants, ne plus fabriquer des êtres dont le destin est un destin impossible. Et voilà que malgré tout, le courage apparaît au niveau des femmes. Vous devez savoir l'importance considérable que vont jouer, que joue la mère et la femme de Moïse dans le salut d'Israël à ce moment-là. Et voilà la parenthèse que je voudrais ouvrir en citant le Midrash, c'est ceci. Le Midrash nous dit que Myriam, donc, après la décision prise par Amram, Myriam va voir Amram et lui dit que finalement sa décision est plus grave pour le destin d'Israël que la décision du Pharaon lui-même. Le Pharaon décide que plus aucun garçon ne resterait en vie. Vous savez d'ailleurs qu'il y a eu deux décisions de prise. À deux niveaux. D'abord, uniquement les enfants juifs, et ensuite, pris de scrupules, nous dit le Midrash, parce qu'il n'était pas sûr si ce rêve qu'il avait eu qu'un enfant le détrônerait, si ce n'était pas par hasard un enfant égyptien. Alors même les enfants égyptiens, la décision avait été prise de les garçons, pas de les tuer. Et vous voyez, l'intention du Midrash. Parce que finalement, à ce niveau-là, il y avait l'ambiguïté d'identité. L'enfant né en Égypte d'une famille égyptienne pouvait être aussi devenir hébreu. Et l'enfant né hébreu dans une famille hébraïque pouvait aussi devenir égyptien. Je veux dire, à la limite, c'était sauf la même chose, au Tadava. Vous comprenez? Eh bien, puisque le cas par excellence, le cas exemplaire, c'est Moïse qui est à la fois l'un et l'autre, en fin de compte. Et Myriam dit donc à Amram, au fond, toi, Amram, le chef de la tribu de Lévi, tu es pire pour le destin d'Israël, parce que le pharaon ne tue que les garçons, et toi tu veux tuer et les garçons et les filles en les empêchant de naître, et que le pharaon leur enlève ce monde-ci, mais toi tu leur enlèves aussi le monde à venir, parce que pour accéder au monde à venir, il faut passer par ce monde-ci. Alors elle dit à son père, laisse-les naître. Que le pharaon les tue, mais laisse-les naître. Au moins, ils accéderont au monde à venir. Et à peu près son raisonnement. Et il y a, je crois, un surcroît de vouloir être qui passe à travers le courage des femmes à ce moment-là. Vous savez que ça va très loin, cette notion de Nashim Satkaniot. À chaque génération où le salut est indispensable, c'est grâce à l'initiative des femmes que cela se produit. Et je ne pense pas en particulier à Golda Meir. Mais je dois vous dire que c'est extrêmement frappant, malgré tout. Je crois que cette histoire juive a des cohérences extraordinaires. Et il y a toujours un moment où l'histoire juive nous fait un clin d'œil pour nous dire, vous savez, il s'agit bien de moi, c'est-à-dire de l'histoire juive telle qu'elle se passe selon la Torah. Mais je veux d'abord en terminer avec cette allusion donc au Nashim Tzadkaniyot, au courage de l'identité féminine en Israël, qui à chaque moment de gravité montre l'évolution vers le plus-être d'Israël passe d'abord par une mutation au niveau d'identité, féminine. Et Sarah était plus grand prophète qu'Abraham, Rebecca était plus grand prophète qu'Isaac, etc. Et puis nous voyons que l'identité du salut, Moïse, est introduite dans l'existence par sa femme et sa sœur, qui sont les sages-femmes en chef, si vous voulez, d'Israël. Sa mère et sa sœur. Je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse dans la parenthèse. Quand même pour donner un chidouche aux Hébraïsans, c'est ceci. La grande différence qu'il y a entre la mentalité de l'hébreu et la mentalité grecque du point de vue du rapport à l'enseignement. C'est le personnage qui est équivalé dans la société grecque à Moïse, c'est Socrate. Et vous savez comment il a enseigné que sa méthode, la méthode d'enseignement de la philosophie, donc du génie, de la pensée grecque, c'est ce qu'il appelle la maïeutique. C'est-à-dire, l'art d'accoucher les esprits, vous savez ce que. Tandis que nous voyons que dans la mentalité hébraïque, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Enfin, ce n'est pas le maître qui est défini comme étant l'accoucheur, c'est l'élève qui est défini comme étant l'accoucheur de la sagesse du maître. Je voudrais montrer le sérieux de la méthode traditionnelle hébraïque et le caractère, aidez-moi à trouver le mot, je ne veux pas dire hypocrite, mais enfin le caractère. Ambigu, oui, de la méthode maïeutique. Dans la méthode maïeutique, on feint de découvrir la sagesse dans la tête de l'élève. On fait semblant. Vous comprenez ce que je veux dire? On feint de faire accoucher l'esprit de l'ignorant de ce que le maître veut lui faire comprendre. C'est une fiction pédagogique. Tandis que dans la méthode hébraïque, c'est l'inverse. Nous avons une Mishnah qui dit, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, j'ai encore plus appris de mes compagnons d'études, mais ce de qui j'ai appris le plus, c'est de mes élèves. Mais comment que c'est l'élève qui a appris au maître? Pas du tout. C'est l'élève qui permet au maître de savoir ce qu'il sait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est donc l'élève qui se fait la sage-femme de l'esprit du maître, mais c'est dans l'esprit du maître qu'il y a la sagesse. Alors là, on est tranquille, on est rassuré, c'est une vraie sagesse. Vous comprenez? Vous voyez ce que je voulais dire en disant comment cette attitude est exactement l'inverse d'une fiction dans la soi-disant maïotique. Et alors là, ce que je voulais dire, en hébreu, sage-femme, ça se dit Nialedet. C'est les mêmes lettres qui forment le mot de Talmid, qui signifie élève. C'est joli. Bien. Moïse a été dans ce rapport. Dans ce rapport de Talmid et par rapport à sa mère et par rapport à sa sœur. Alors il est devenu le maître d'Israël. Vous voyez, il était le Talmid par excellence de l'identité d'Israël. Alors il a pu devenir le maître d'Israël. C'est donc le Moshe Rabbeinu, mais il est le fils et le frère de la Mialedet. Vous comprenez cela? Bien. Je termine cette parenthèse. Voilà donc, c'est ce courage, ce vouloir-être, ce surcroît de vouloir-être qui apparaît dans l'identité de Myriam, qui va finalement sauver Israël. Effectivement, le dernier enfant qui était né, c'était le frère de initiative de, d'obtenir que l'identité d'Israël redevienne féconde, c'est-à-dire que les maris se rapprochent de nouveau de leur femme, et en disant, qui sait, peut-être que le sauveur naîtra si on a le courage de continuer